Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la première radio web francophone. Nous sommes à la fin du VIe siècle en Italie, l'Empire romain d'Occident n'est plus depuis bien longtemps. De fait, chaque citoyen romain est d'abord citoyen de l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient. Depuis le Ve siècle, l'Europe est envahie par des peuples du Nord et de l'Est, dont la culture, les valeurs et bien sûr la religion diffèrent de cette Europe occidentale. À Rome, la peste fait rage, la famine menace et le Tibre déborde de manière inquiétante. Devant ces calamités naturelles et ces bouleversements historiques, pour faire face au désespoir, parfois à l'indifférence du peuple chrétien, eh bien, un homme va se distinguer. Élu pape au mois de janvier 590, Grégoire Ier est le seul pape, avec Léon Ier, à recevoir le qualificatif de grand. Il est considéré, avec saint Ambroise, saint Jérôme et saint Augustin, comme un des quatre docteurs de l'Église latine, avec qui, d'ailleurs, il est parfois représenté comme sur la magnifique mosaïque de l'Église Saint-Clément à Rome. Un jour dans l'histoire vous propose aujourd'hui de découvrir ce personnage fascinant de notre histoire, de l'histoire du christianisme occidental, à la fois chef religieux mais aussi chef politique, mystique mais aussi pasteur d'âme, contemplatif mais aussi maître de vie spirituelle. Pierre Batiffol disait de lui en 1928, moraliste avec sa haute conscience de pape et son expérience du spirituel, il a moins éclairé l'Église qu'il ne l'a édifié. Qui était donc Saint Grégoire le Grand? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Philippe N. Philippe N, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, universitaire, chercheur, ancien chercheur à Fribourg. Vous êtes allé également à Jérusalem et vous êtes actuellement professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille 3. Et vous avez travaillé notamment sur Origène qui est le fondateur de la théologie, et sur Hilaire de Poitiers, théologien également. Et vous venez de publier aux éditions du Cerf une biographie de Grégoire le Grand. Vous êtes venu à Grégoire le Grand par la théologie ?
Oui, évidemment par la théologie, mais surtout par l'aspect terriblement moderne et contemporain de ce personnage. Comme vous le disiez, donc, il se trouve à une période charnière de l'histoire de l'humanité, au moment où l'Empire romain s'effondre, où les grandes population germanique arrive et s'installe, où les royaumes francs sont établis. Et ça fait un peu penser à la situation actuelle, où on est en une phase aussi de transition, de passage important, avec de grands flux migratoires. Il est intéressant de voir ainsi un personnage qui est à la fois tellement riche et imprégné de sa propre tradition, mais qui n'en est pas prisonnier, et qui est capable, devant une situation terriblement difficile et importante, de pouvoir réagir avec innovation et intelligence tout en restant fidèle à ses racines.
Alors, le contexte, d'abord, est très important. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et dans cette crise politique que vit l'Occident, le religieux est très important et un personnage particulièrement, c'est l'évêque. Quel est le rôle de l'évêque à cette époque?
Mais comme vous le disiez, donc, les évêques restent toujours des citoyens de l'Empire romain d'Orient. Politiquement parlant, ce sont des gens qui finalement n'ont pas de réel pouvoir, mais à l'inverse sont de très grandes personnalités. Et on le voit pendant cette période, pendant les invasions lombardes, bien visigothiques, ce sont souvent eux, les évêques, qui ont pu réagir, et en tout cas essayer de tenir ou de maintenir une certaine cohésion à l'intérieur de la société. Ces personnages ont donc non pas de pouvoir politique tel qu'ils en auront par la suite à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique, mais ce sont des personnages qui finalement sont le seul rempart vis-à-vis de la barbarie, de la destruction morale qui peut exister à l'intérieur d'une société.
Alors, vous évoquiez les Lombards. Les Lombards, vous en parlez tout au long de votre ouvrage. C'est un élément très important de l'histoire de Grégoire le Grand. Qui sont ces Lombards? Parce que pour le commun des mortels aujourd'hui, pour le contemporain, la Lombardie, c'est le nord de l'Italie. D'ailleurs, nord à partir duquel s'est créée l'unité italienne au XIXe siècle.
Oui, en fait, donc, les Lombards sont donc des peuplades germaniques qui viennent donc du nord de l'Allemagne, qui se sont surtout caractérisés par leur très grande brutalité à l'égard de la religion chrétienne, justement. Et ce qui est assez impressionnant lorsque Grégoire évoque cette période et les massacres qui ont été organisés par les Lombards, ils étaient beaucoup plus cruels que les Wisigoths, probablement parce qu'ils considéraient que l'Église chrétienne était le rempart, ou en tout cas le symbole même de cet empire romain qu'ils voulaient détruire.
Alors, en fait, l'évêque face à ces Lombards, de manière générale, vous écrivez qu'ils ne veillent pas seulement à la survie de leurs ouailles, ils prennent position dans les conflits et ils interviennent politiquement malgré tout.
Oui, donc ils sont même intervenus lors de périodes de siège, lors de périodes d'agression militaire, etc. C'est eux qui ont parfois donc négocié d'éviter que la population ne soit massacrée ou que le pillage ne soit vraiment trop important et intense. Oui, c'est exact.
Alors, quel rôle joue Constantinople? Est-ce que c'est un rôle important? Il devrait jouer un rôle important, mais est-ce que Constantinople est à la hauteur?
Ça, c'est le gros problème, et à mon avis, c'est ça. Ce que Grégoire a découvert lorsqu'il a fait son séjour à Constantinople, c'est de voir d'une part l'arrogance de la cour impériale et d'autre part son manque de moyens. C'est-à-dire donc pratiquement la moitié de l'Italie est occupée par les Lombards et l'autre partie donc occupée par l'Empire byzantin, où la population est écrasée par le fisc et par les impôts. Mais finalement, il y a très peu de soldats ou très peu de garnisons militaires qui puissent assurer la sécurité pure et simple des gens qui sont présents dans le pays. Et on peut dire qu'une certaine manière, Grégoire a dû être terriblement choqué par cette espèce de pression, d'oppression que finalement ce pouvoir byzantin exerçait sur la population et cette incapacité de pouvoir tenir son rôle, son véritable rôle, de maintenir l'État en fonction. Et je crois que c'est ça qui lui a permis d'une certaine manière de se libérer de cette emprise, pourrait-on dire, politique dans la gestion de l'Église. Et c'est vraiment pour cela que je trouve ça tellement passionnant chez Grégoire le Grand, c'est qu'il a été capable de s'arracher de cette tutelle politique pour permettre à l'Église de devenir universelle.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, ça c'est l'aspect politique, mais il y a aussi l'aspect religieux. Vous mentionnez dans votre livre que la répression orthodoxe qui est imposée par Constantinople contraste fortement avec la tolérance religieuse pratiquée par les Goths-Ariens.
C'est tout à fait étonnant, tout à fait surprenant, oui. Alors, on se serait attendu à autre chose. Oui, c'est exact. Les Goths étaient beaucoup plus tolérants que les Byzantins.
C'est-à-dire qu'il y a une violence physique, il y a une violence physique avec les invasions, etc. Mais sur le plan religieux, malgré tout, il y a cette tolérance.
Oui, tout à fait.
Alors, nous sommes à une époque de transition, nous l'avons dit. Quelle est la place de la vie culturelle à cette époque-là? Parce que nous allons le voir, Grégoire est un écrivain, il va développer, il a une image culturelle forte. Quelle est la place de la culture à cette époque?
Malheureusement, c'est l'effondrement le plus complet dans l'enseignement à cette époque, au VIe siècle. Nous sommes très loin des grandes écoles de philosophie telles qu'ont connu Grégoire de Nazianze, ou bien Basile le Grand, ou bien des gens comme de l'époque de Jérôme. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus véritablement, même plus d'auteurs très, très importants. On le voit par exemple un contemporain de Grégoire le Grand, qui est Grégoire de Tours, qui écrit un ouvrage absolument passionnant pour les historiens, c'est l'Histoire des Francs. Lui-même dit qu'il ne connaît même plus sa grand-mère, il ne sait même plus très bien si le mot est masculin ou féminin, que sais-je encore. Et chez Grégoire le Grand, on le voit également, autant son latin est très beau, très, très agréable à lire, etc. Autant on se rend compte que ce n'est pas le grand latin cicéronien ou que ce n'est pas, il n'a pas fait d'école de rhétorique comme Jérôme, par exemple.
Oui. Alors justement, venons-en au personnage lui-même. Vous citiez sa formation. Est-ce qu'on connaît ses origines?
Bon, on connaît ses origines, en tout cas, donc il en parle lui-même. Donc il est issu d'une grande famille aristocratique. Et ce qui est très important aussi, c'est une grande famille aristocratique qui est restée à Rome. Et là, je crois que c'est déjà un premier point qui signale la grandeur d'âme de cet homme, de cette famille. Il y a beaucoup de familles aristocratiques qui étaient ruinées. Il y a beaucoup de familles aristocratiques qui sont enfouies vers Constantinople. Et il y a quelques familles aristocratiques qui sont restées à Rome, par le sens du devoir, par le sens du bien commun. Et la famille de Grégoire le Grand était de celle-là. Deuxièmement, donc, Grégoire le Grand lui-même avait un bisaïeul qui était pape lui-même et qui donc appartient déjà à cette grande tradition aristocratique et chrétienne, avec ce très haut sens du devoir. Et je crois que de ce côté-là, Grégoire le Grand est très représentatif de cette mentalité latine qui est issue de la grande période de la République, avant l'Empire, où ces gens avaient un sens très élevé du bien commun et de l'État.
Et du devoir, donc.
Et du devoir.
Alors, on ne connaît pas hein, sa date de naissance, vous l'évaluez.
Ah oui.
Vous l'évaluez, il est très difficile de connaître son âge et également sa formation intellectuelle.
Non, il y a des aspects un peu d'enquête policière qui existent comme ça pour ces personnages-là. Tout ce que l'on sait, c'est sa date de mort. Ça nous est révélé par le livre qu'on appelle le Liber Pontificalis, qui est une espèce de recueil d'annales ou de renseignements très techniques sur la plupart des papes qui ont pu exister. Ce n'est pas un livre qui est absolument profond pour du psychologique ou bien moral. C'est un livre qui est davantage plutôt dans des renseignements purement techniques. Tout ce que l'on sait, donc, c'est qu'il est mort en 604, qu'il a régné pendant 14 ans comme pape, donc on sait qu'il était donc élu en 590. Et lui-même, donc, Grégoire le Grand, signale dans un commentaire du Livre des Nombres qu'il est bon qu'un évêque ait l'âge de 50 ans. Et c'est à partir de là simplement qu'on calcule, qu'on se dit 590 moins 50, ça fait 540. Donc il se naît vers 540, etc.
Alors ce qu'il y a d'étonnant, vous venez de le dire, c'est qu'il va devenir pape que 14 ans. Et 14 ans, c'est court, pourtant il a un rayonnement dans l'histoire qui est extraordinaire.
Il y a deux choses importantes qu'il faut bien voir. Il devait y avoir à Rome à cette époque-là une certaine clique, une certaine mafia, pourrait-on dire, qui était installée à l'intérieur même de la cour pontificale. On le voit parce que lui-même sera obligé de devoir faire un certain nettoyage à l'intérieur de cette cour pontificale, où les gens étaient davantage intéressés par leur propre survie, leur aisance matérielle, que par le bien commun ou le bien du peuple. Et je crois qu'on peut facilement comprendre cela, vu les tragédies que notre pays a pu connaître également. Lors des périodes comme ça, de guerre ou des périodes de famine, il arrive parfois que les gens cherchent d'abord à s'enrichir et à se débrouiller, plutôt qu'à veiller au bien commun. Et c'est un peu la différence de Grégoire le Grand.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Philippe N, historien, théologien également, et auteur du livre Grégoire le Grand, un ouvrage paru aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Saint Grégoire le Grand, un pape à partir de 590. Et je reçois Philippe N, auteur d'une biographie sur le sujet paru aux éditions du Cerf. Alors nous avons évoqué ses origines sur lesquelles il est difficile de se prononcer. En revanche, nous savons qu'en 575, il quitte le monde et il se destine en fait, Grégoire, à une vie monastique.
C'est tout à fait curieux également. La naissance du monachisme en Occident est tout à fait particulière. Autant il y a une très vieille tradition en Orient pour le monachisme qui existe avant même le christianisme. On connaît déjà les thérapeutes au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui étaient probablement d'origine juive. Et le monachisme s'est très vite développé en Orient, non seulement en Égypte, avec entre autres le fameux Antoine, Antoine du désert, Antoine le Grand. Et quelle est la perspective de ce monachisme en Orient? C'est de fuir la ville, fuir la communauté, pour essayer de retrouver à le diable là où il est, à l'intérieur même du désert. Et je crois que c'est basé sur une certaine expérience personnelle. Tout le monde sait qu'on peut connaître des moments de solitude qui peuvent être assez dangereux, parce qu'il y a de vieux monstres qui peuvent surgir à l'intérieur de notre propre cœur. Et d'une certaine manière, le moine oriental va attaquer le diable là où il est, au cœur même donc de l'humain. Tandis que la tradition occidentale est beaucoup plus difficile. C'est seulement vers le 4e siècle que les premiers moines ont pu commencer à apparaître. Mais c'était très mal vu et très mal accepté. Pourquoi? Parce qu'il manquait de philanthropie. Se retirer du monde, c'est faire preuve de couardise. Se retirer du monde, c'est rompre le lien social qui pouvait exister. Et c'est ainsi que quelqu'un comme Julien l'Apostat aura des réactions très virulentes contre les moines, alors qu'habituellement, il est très tolérant, mais ne supporte pas ce genre de vie. Et c'est la première chose que devront faire des gens comme Ambroise de Milan ou bien Jérôme, c'est de pouvoir essayer d'organiser ou de faire accepter ou de faire respecter cet engagement monastique. Et c'est ainsi qu'Ambroise de Milan écrira le premier ouvrage sur la vie monastique et que Jérôme sera donc un peu le guide spirituel pour ces communautés, ces premières communautés religieuses. Et on sait très bien que Saint-Martin de Tours, lorsqu'il a voulu fonder sa première communauté, a été deux fois expulsé par les évêques eux-mêmes. C'est simplement Hilaire, grâce à Hilaire de Poitiers, qui finalement il sera accepté. Mais c'est aussi intéressant de noter que c'est que les grands personnages à cette époque, les pères de l'Église les plus importants, sont issus du milieu monastique. Mmh. Et c'est important parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont dit. Ce ne sont pas des intellectuels de salon, ce sont des gens qui, dans leur chair, dans leur sang, ont voulu vivre et pratiquer ce qu'ils ont voulu dire. Mmh. Et donc, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, est issu d'une certaine expérience profondément humaine, enracinée, incarnée.
Mmh, mmh. Alors, qu'est-ce qui motive précisément Grégoire dans sa volonté d'entrer au monastère ?
Tout d'abord, il était précédemment préfet de la ville. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà assumé de très hautes fonctions, de très hautes responsabilités. Mais sans doute, un leitmotiv chez lui, c'est le fait d'être étranger à soi-même.
Ouais.
Étranger à soi-même, et il lui-même le dit, c'est là pour l'origine du péché originel, c'est que brutalement, l'homme est sorti de lui. Mmh. Et qu'il n'est plus en phase, d'une certaine manière. Une espèce de réconciliation que Grégoire essaye de retrouver, une réconciliation avec lui-même, avec le monde et avec Dieu, qu'il essaie de retrouver dans la vie monastique, certainement.
On peut parler de mysticisme ?
On peut parler de mysticisme, oui. Mais il est trop romain, il a trop les pieds sur terre et il est trop réaliste. Non, il n'y a pas de grandes envolées mystiques chez lui. Il y a un profond attachement, certainement. Mais ce n'est pas un
grand mystique. Alors,
pas dans le sens d'envolée romantique.
Oui.
Pas dans le sens d'envolée romantique. Mmh. Non.
Alors, vous le dites, c'est un réaliste. Il a des qualités, on peut dire, administratives, vu qu'il a été préfet. Est-ce pour cette raison qu'il devient apocrisaire, c'est-à-dire mandaté par le pape auprès de Constantinople?
Oui, c'est ça. Probablement donc parce qu'il est issu d'une grande famille aristocratique et d'une grande famille religieuse également. Et aussi donc, c'est d'être quelqu'un qui doit avoir un certain sens politique. Parce que donc, une chose, c'est d'être le gouverneur de la ville, comme le préfet, comme il l'appelait, où il fait les charger à la fois de l'approvisionnement, des lois, de la sécurité et de la législation. Tandis que l'apocrisière à l'intérieur de la cour impériale, c'est une fonction qui est beaucoup plus diplomatique. Comme disait un certain général, il faut aller là-bas avec des idées simples dans l'Orient compliqué. Mmh. Et là, il est certain que cette fonction d'apocrisière était une fonction qui était très délicate parce qu'il devait veiller à la sauvegarde de l'indépendance de l'Église par rapport aux manœuvres de l'empereur. L'empereur n'avait qu'une seule envie, évidemment, c'est de pouvoir manipuler les évêques, manipuler le pouvoir ecclésiastique pour mieux assurer l'unité et la stabilité de son propre régime. Mais les intérêts de l'Église ne sont pas nécessairement les intérêts de l'État. Et c'est un peu dans ce contexte d'intrigue, de complot, que donc Grégoire le Grand fera sa fonction d'apocrisière à Constantinople. Mmh.
Alors, il citisse un réseau d'amitié, bien évidemment. Et finalement, Constantinople contraste entre, d'un côté, il y a une richesse, la richesse byzantine, et de l'autre côté, il y a véritablement une misère romaine.
Tout à fait, oui.
C'est une question, j'allais dire, c'est une image qui, ce contraste le motivera plus tard dans son gouvernement de l'Église.
En tout cas, ça lui permettra de prendre ses distances par rapport au pouvoir impérial. Ça lui permettra en tout cas d'avoir un point de vue beaucoup plus réaliste d'une certaine manière et de savoir qu'il ne peut pas trop compter sur le pouvoir impérial pour pouvoir sauvegarder l'unité de l'Église et de son développement.
Mmh. Alors, venons-en justement à son élection. En 590, vous présentez les catastrophes naturelles qui touchent Rome, l'épidémie de peste. D'ailleurs, le pape Pélage II est emporté par la peste. Et Grégoire, dans un premier temps, refuse ce qu'on peut appeler une élection.
Oui, tout à fait. C'est assez émouvant, d'ailleurs. C'est ça qui le rend très sympathique. Il y a des côtés ça, terriblement désespérés chez lui. Il a des cris de désespoir qui sont tout à fait humains. C'est pour ça que je trouve ça tellement passionnant, ce personnage. Il est à la fois une très grande hauteur, un très grand dévouement pour le bien public, et en même temps, une très grande conscience de sa faiblesse et des cris de faiblesse qu'il peut avoir. Alors, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est un style littéraire ou un truc littéraire de présenter ainsi ce refus pour assumer cette responsabilité?
Oui, parce qu'on le sait de sa propre main.
On le sait de sa propre main, il le dit lui-même. Et d'autres auteurs aussi ont eu cette même attitude, que ce soit donc Saint-Jean Chrysostome ou bien donc d'autres personnages. Et en fond, on se rend compte qu'à l'époque, il y avait des nominations, des élections qui étaient forcées. Même les lois impériales ont dû limiter un petit peu cette obligation, ainsi cette brutalité qui était faite à certains personnages, assumer ainsi la responsabilité d'évêque. Il y a d'ailleurs une anecdote assez amusante, c'est qu'Augustin, par exemple, du temps où il était moine, évitait toutes les églises où il n'y avait pas d'évêque, de peur d'être lui-même ainsi brutalement nommé ou élu comme évêque. Mais voilà, un jour, un dimanche, il est allé à la messe, il y avait un évêque qui était sur place. L'évêque l'a reconnu, il a tellement bien incité la foule qu'il a été donc nommé évêque lui-même, à son grand, contre sa propre volonté. Pour ce qui est de Grégoire le Grand, il est certain que, d'une part, la fonction qu'il a exercée comme préfet de la ville a dû laisser probablement un bon souvenir. C'était un bon gérant, un bon gouverneur de la ville. Deuxièmement, la situation était tellement dramatique qu'il fallait avoir quelqu'un qui ait de la poigne et aussi une certaine conscience, haute conscience, du devoir qu'il fallait accomplir. Et non pas des petites magouilles ou des tireurs au flanc comme il pouvait exister à ce moment-là. Alors, ce qui est très amusant, c'est de voir cette façon dont il a pu réagir, où il dit, lui-même est intervenu auprès de l'empereur pour qu'il ne soit pas élu, que son élection soit cassée. Et lui-même interviendra auprès du patriarche de Constantinople en disant, toi, tu n'as pas voulu être patriarche, mais voilà que toi, tu me forces à l'être également. Il y a quelque chose de très humain, de très simple chez lui.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, comment, après avoir présenté son élection, vous présentez ses premières œuvres. Donc, l'intellectuel, les papes écrivent à cette époque. C'est une chose commune ou vraiment Saint Grégoire se distingue par ses nombreux écrits?
Oui, donc, tous les papes n'ont pas écrit. Tous les papes n'ont pas écrit. Et c'est vrai que Grégoire le Grand s'impose par la qualité de ses ouvrages et aussi par la profondeur de ses vues. Le premier écrit que l'on ait, par exemple, c'est de Clément de Rome, qui a écrit la lettre aux Corinthiens vers 96, qui donc est un écrit absolument passionnant parce qu'il doit prendre position à l'intérieur d'une communauté qui est déchirée. C'est presque un traité fondamental sur la vie commune. C'est très utile, même pour nous religieux, à l'intérieur d'un couvent. Les craintes, c'est toujours utile. Ici, Grégoire le Grand, bon, ses prédécesseurs ont relativement peu écrit. Ce qu'on peut citer avant lui, évidemment, c'est Léon le Grand, qui était pape de 440-461, qu'il met le Pélage II, que sais-je, n'ont pas écrit. Mais ce qui est toujours très intéressant de voir chez un personnage, c'est qu'une fois qu'il assume ses responsabilités, c'est de savoir qu'est-ce qui l'inquiète. Quelle est son angoisse personnelle?
Alors, vous présentez justement le premier écrit, Les règles pastorales. Et Les règles pastorales, c'est une œuvre de circonstance parce que c'est le rôle de l'évêque. Et vous évoquiez, nous évoquons depuis le début de cette émission, l'importance de l'évêque à cette époque.
Oui, et c'est très intéressant parce que c'est la première fois. C'est la première fois que dans l'histoire de l'Église, qu'on s'intéresse à savoir qu'est-ce que doit faire un évêque, comment on doit le choisir, qu'est-ce qu'il doit vivre, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est sans doute très symptomatique de l'effondrement institutionnel de l'État à ce moment-là. Les gouverneurs n'ont plus de pouvoir, ou bien ce sont des gens qui s'enrichissent. L'armée n'assure même plus la sécurité de l'État, et l'Empire est bien loin. Et finalement, ce sont que les évêques qui sont là, les seuls pouvoir tenir un peu la société en main. Et c'est sans doute très révélateur, ainsi que à ce moment-là, Grégoire le Grand ressent la nécessité de donner en tout cas une structure philosophique, politique et religieuse pour ces personnages qui deviennent brutalement importants pour l'État.
Quel était le moyen de diffusion de ces œuvres? Parce que vous présentez une œuvre qui a du succès et qui se développe beaucoup.
Oui, il devait y avoir des ateliers de script très, très, très efficaces, très rapides, et des tachygraphes, très importants.
Donc, l'œuvre de Grégoire a immédiatement du succès?
L'œuvre de Grégoire a été très vite répandue. En tout cas, lui-même a veillé à cela. Il a veillé à ce que cette œuvre soit diffusée et donc répandue auprès des différents évêques qui étaient sous sa juridiction. Et par la suite, ça a été fort utilisé et même traduit très rapidement.
Donc ça, ce sont les règles pastorales. Après, il y a le commentaire du livre de Job et le personnage de Job. D'abord, on va rappeler pour nos auditeurs qui était Job dans la Bible et quelle est la nature de ce commentaire. Alors, et pourquoi, d'ailleurs, au fond, pourquoi Grégoire le Grand s'intéresse et aime-t-il ce personnage?
Mais tout d'abord, donc, comme vous le disiez, donc, Job, c'est dans la Bible, c'est l'homme vertueux, honnête, droit. Et alors, donc, il y a le diable qui se présente devant Dieu et qui lui lance un défi à Dieu. Il dit, écoute, tout va bien pour Job, c'est facile d'être vertueux comme cela, mais on va voir s'il est jamais dans la difficulté, comment il réagira. Alors, d'après la Bible, Dieu dit au diable, vas-y, fais-en ce que tu veux. Et Job perd sa fortune, perd sa santé, Job est maltraité, trahi par sa propre famille, sa femme et ses amis. Il connaît donc la déchéance la plus complète. Mais Job, à l'intérieur de toute cette misère, a cette phrase qui est tout à fait symbolique et qui représente très bien sa mentalité. Un jour Dieu donne, un jour Dieu reprend. Dieu est bon. Une cesse de confiance infinie vis-à-vis de Dieu. Alors c'est assez troublant et passionnant parce que D'une certaine manière, Grégoire le Grand voit l'effondrement de toute sa vie, l'effondrement de tout son empire, l'effondrement de toute sa culture, l'effondrement de tout ce en quoi il était éduqué et nourri. Il voit que ce n'est plus que des désastres. Et à l'inverse, il a cette espèce de confiance immense à l'égard de Dieu, cette espèce d'élan, d'intimité avec lui qui est toujours présente. Et c'est assez révélateur qu'il ait ressenti la nécessité de commenter d'abord ce livre, d'aller rechercher auprès des pleurs, des sanglots de quelqu'un, d'un homme de Dieu, de retrouver un peu la consolation dont il avait tant besoin.
Et là encore, ce livre remporte un succès.
Ben oui, donc ce livre d'ailleurs est plus connu sous le nom de Moralia, donc les commentaires moraux, parce que de fait, encore une fois, on retrouve très fort la mentalité romaine, prétendait Grégoire le Grand. C'est très pratique et très pragmatique. Ce ne sont pas des grands élans mystiques dans lesquels il s'élance, mais davantage dans des commentaires plutôt moraux.
Oui, c'est l'expression que je prenais au début de cette émission de Pierre Batifol, qui est un biographe de Grégoire le Grand, 1928, moraliste hein, avant tout. On a l'impression d'avoir à la fois un intellectuel et en même temps un homme près des gens, avec une morale dans le bon sens du terme. C'est bien cela ?
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que le mot moraliste a un sens tellement, des connotations tellement négatives ou tellement étouffantes. Chez Grégoire le Grand, c'est davantage l'aspect pragmatique, je pense. Il a une très grande proximité humaine.
Pédagogue ?
Pédagogue, certainement, oui. Non, tout sera très très beau parce qu'il y a à la fois, il est très réellement imprégné de la pâte humaine avec sa grandeur et ses faiblesses, mais tout en étant transfiguré par sa foi et son élan vers Dieu.
Alors, le troisième pilier des premières œuvres, ce sont le registre des lettres et ce sont des documents très importants parce que vous écrivez que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église que l'on a un recueil issu de l'administration pontificale.
Non, ce n'est pas tout à fait la première fois. Léon le Grand avait déjà laissé donc, un premier recueil de lettres, mais c'était moins important. Mais avec Grégoire le Grand, on a en fait un recueil très important. Et personnellement, je dis, mais c'est un avis tout à fait personnel, je trouve ça passionnant de lire ces lettres davantage que ces traités, parce qu'on y voit davantage la vie humaine, la vie concrète qui peut s'y exprimer. Et de plus, il le fait dans un très beau latin, c'est un style qui est très agréable. Et c'est les multitudes, les multiples facettes de toute son activité pastorale, soit comme évêque, soit comme chef de l'Église, soit aussi comme être humain vis-à-vis des autres personnes.
À qui sont-elles adressées, ces lettres hein?
Oh, ça peut être à l'empereur de Constantinople comme à d'autres évêques. Ça peut être aussi simplement à des amis, comme Léandre de Séville, etc.
Qu'il avait rencontré à Constantinople.
Exactement, hein.
Alors, il y a, après l'écrivain, vous mettez en avant l'exégète et l'hagiographe. C'était effectivement un exégète, Grégoire ?
C'était un commentateur, certainement. Bon, de toute façon, dès le début, il l'a fait. Quand il s'est retiré dans sa propriété paternelle à Rome, après avoir été préfet de la ville, il était entouré donc de quelques amis qui partageaient la même idéal de vie monastique. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il ouvrait la Bible, il commentait à livre ouvert. Mmh. Je crois que c'est aussi la relation très nourrissante avec la parole de Dieu. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que on ne peut bien en parler que lorsqu'on en parle avec tout son cœur, qu'on en parle avec toute son expérience et avec toute sa chair. Et là aussi, il le fait de manière admirable.
Vous faites reposer son œuvre sur trois piliers. D'abord, premier pilier, prêcher. Deuxième pilier, enseigner. Et troisième pilier, méditer. Ce sont les trois qualités, en fait, de Grégoire.
Oui, ces trois qualités nourrissantes, certainement, oui.
Nous sommes vous êtes à l'écoute, pardon, de Canal Academy, et je reçois Philippe N., dominicain, historien, théologien, professeur à l'Université catholique Lille 3, et auteur du livre Grégoire le Grand, un livre paru aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons dans un instant. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Philippe N., historien, auteur du livre Grégoire le Grand, paru aux éditions du Cerf. Alors, Philippe N., nous avons évoqué l'œuvre écrite de Grégoire le Grand, ô combien cette œuvre est importante. Mais Grégoire le Grand, c'est également une réforme et finalement une réforme structurel plutôt que conjoncturel. Il s'agit de réformer vraiment cette Église, premièrement, et puis deuxièmement, de répondre aux multiples désastres politiques qui entourent Rome et l'Italie.
Oui, c'est exact. Mais quand on parle de réforme, il faut bien voir dans quel sens il faut prendre ce mot-là. Il ne s'agit pas de vouloir faire la révolution, un bouleversement structurel ou politique ou religieux à l'intérieur de la structure qu'est l'Église. Il s'agit simplement de la faire marcher. Il s'agit simplement de remettre en fonction et en mouvement les lois qui existent déjà. Et en fait, c'est exact quand on regarde un peu le parcours institutionnel de Grégoire le Grand. Il n'a pas véritablement fait de nouvelles institutions. Il a simplement mis en fonction les lois ou les règlements qui existaient.
Est-ce à dire qu'il a redonné une identité en quelque sorte en remettant, les choses en place ?
Il a surtout redonné un souffle. Et une, je dirais, la véritable dimension transcendantale de la structure qu'est l'Église, au lieu d'avoir donc des gens qui étaient là davantage pour leur propre enrichissement personnel.
Voilà, alors son premier travail, en quelque sorte, vous l'expliquez, c'est de lutter contre les richesses indues de l'Église, contre la rapacité et la simonie.
Mais la corruption pure et simple qui existait. Donc, il a pratiqué un véritable coup d'État en démettant son archidiacre. L'archidiacre, il faut voir ce que c'est les yeux et les oreilles de l'évêque. C'est le personnage le plus important dans la structure ecclésiastique. Et démettre un archidiacre, ce n'est arrivé que deux fois dans l'histoire du Moyen-Âge à l'Église. Ça s'est fait du temps du pape Serge Ier en 687 et ça s'est fait du temps donc, de Grégoire le Grand. Je crois qu'on peut imaginer, on a du mal à imaginer le choc, le tremblement de terre institutionnel que ça a pu représenter. D'autant plus qu'il n'était pas seul, cet archidiacre, il était, faisait partie, encore une fois, probablement d'une espèce de mafia ou en tout cas de clique, de diacres ou de gens importants qui, profitant de leur situation, s'enrichissaient, ils ne veillaient pas au bien de la population. Et il faut se rappeler que ça s'est fait au moment où il y avait une peste qui décimait la ville, au moment où il y avait une famine qui tuait la population.
Vous expliquez très concrètement que parfois des évêques ou bien des charges, même des prêtres, n'avaient pas les qualités requises et finalement obtenaient une charge par l'argent.
Ah oui, de toute façon, oui. C'est une plaie de l'Église qui a existé à travers tout le Moyen-Âge et tout l'Ancien Régime.
Alors, vous présentez également ce que vous appelez le patrimoine de Pierre, parce que le pape a un patrimoine foncier important. Aujourd'hui, le Vatican, c'est le plus petit État du monde, 44 hectares, mais à l'époque, le pape avait un patrimoine foncier. Comment gère-t-il ce patrimoine ?
Tout d'abord, ce patrimoine, c'est un peu un cadeau empoisonné qui vient de l'empereur Constantin. Et les lois de l'ancien empire romain ainsi permettaient l'accroissement foncier de la papauté. Ce patrimoine, en fait, était surtout développé sur l'île de la Sicile, mais également en Italie, dans le sud de la Gaule. Et cela permettait, entre autres, le ravitaillement de la ville de Rome. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce patrimoine n'était pas exempt de malversations. Il y avait à l'intérieur donc des colons qui étaient plus ou moins bien traités, il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres, il y avait des fermiers. Et le souci de Grégoire le Grand, c'est de permettre de rétablir une certaine justice sociale, pourrait-on dire, à ce moment-là. Et entre autres, il va introduire cette idée un peu novatrice, de permettre ainsi que, normalement, il fallait payer ses impôts avant les récoltes. Et donc, les fermiers étaient obligés de s'endetter pour pouvoir payer leurs impôts et les prêts étaient à des taux usuriers à cette époque-là. Et là, donc, Grégoire le Grand va demander à son gouverneur de la ville, du patrimoine de Saint-Pierre, va lui demander de payer les impôts à la place des fermiers afin que ceux-ci puissent le rembourser petit à petit et d'éviter qu'ils ne soient noyés, que les fermiers ne soient noyés ainsi dans des dettes de plus en plus lourdes.
Cette notion de justice, on la retrouve régulièrement dans l'action de Grégoire.
Je crois que c'est surtout la notion de dignité. La notion de dignité. Il y a un truc qui est tout à fait un peu scandaleux au début, c'est que lorsque quelqu'un commet une faute ou une erreur, il recommande qu'il soit puni physiquement et non pas puni par une amende. Et l'idée était un peu la suivante, et il le développe lui-même dans sa correspondance, c'est de dire qu'il ne faut pas enchaîner les gens dans la pauvreté ou la misère en les dépouillant. Qu'ils soient fouettés, d'accord, ça fait mal pendant un certain temps, mais qu'ils gardent ses biens. Et je crois qu'il y a ces soucis permanents, c'est que l'homme puisse se relever, se redresser.
Alors, en dehors du patrimoine de Pierre, il y a toute une œuvre administrative à mener en dehors de Rome, en Italie, face aux Lombards et face aux Byzantins. Comment, là je parle de l'œuvre religieuse toujours, comment réorganiser les choses? Comment réorganiser par exemple les diocèses, puisque Grégoire mènera une action dans ce sens?
Mais le problème, c'est d'abord, de fait, c'est de réorganiser les diocèses, parce que nombre d'entre eux sont décimés, nombre d'entre eux n'ont plus d'évêques et même n'ont plus de population. Et donc, il devra créer la fusion de plusieurs diocèses dans certains cas, ou même dans d'autres cas, il va simplement nommer un prêtre responsable de l'église cathédrale et ne nommera même pas d'évêque. Pourquoi ? Parce que la population était véritablement décimée à ce moment-là et c'est souvent une population apeurée et affamée qui se précipite dans la ville de Rome pour essayer de trouver un petit peu de sûreté, de survie.
Alors, un autre point important, c'est vous présentez Grégoire non pas comme l'inventeur, mais plutôt un précurseur de la dépendance des moines directement de Rome. À l'époque, les moines dépendaient des évêques et on sent avec Grégoire une certaine volonté de les sortir de cette dépendance.
Oui, il ne faut pas exagérer ce que j'ai dit. Donc, de fait, les chrétiens, les moines comme chrétiens dépendent de l'évêque. Au niveau du droit ecclésiastique, ça a toujours été la situation. La situation est un peu embarrassante à partir du moment où les évêques sont soucieux un petit peu de profiter des biens fonds ou des biens, de la fortune que certaines abbayes pouvaient avoir. Il était parfois très tentant pour les évêques de mettre un peu la main dans la caisse de ces différents monastères. Et de ce côté-là, donc, Grégoire va établir une certaine exemption, donc une certaine indépendance. Bon, il est certain, moi, que comme dominicain, par exemple, nous jouissons de l'exemption, ce qui fait que nous sommes exempts et que ce qui ne réjouit pas toujours les évêques parce que nous dépendons directement du maître de l'ordre qui est notre supérieur général et qui lui-même dépend du pape.
On le voit vraiment, Grégoire a conscience des choses finalement très terrestres, très administratives son rôle est à côté de l'intellectuel, on voit véritablement un homme en phase avec la réalité des choses.
C'est ça qui est merveilleux, parce que donc c'est un homme profondément incarné, c'est un homme qui est profondément mis dans la réalité concrète de la vie, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de très grands élans mystiques vis-à-vis de son créateur, de son sauveur.
Alors, ça c'est l'action, j'allais dire religieuse, mais après il y a l'action politique face aux Lombards, et là, Byzance est absente et au fond Grégoire va se distinguer par sa volonté de négocier pour éviter le pire avec les Lombards.
Oui, non seulement négocier mais carrément donc prendre des mesures militaires puisque lorsque il y aura donc une phase d'invasion qui va s'établir vis-à-vis de la ville de Rome, il remettra quelques conseils stratégiques au gouverneur militaire romain qui était présent en place. Je crois que c'est aussi très important, on en parlera probablement pour les royaumes francs. Grégoire a fait le deuil de l'Empire romain. Grégoire sait que l'Empire romain n'existera plus et appartient au passé. Grégoire a fait preuve d'un réel politique. Il accepte la réalité telle qu'elle est et c'est avec cette réalité qu'il négociera.
C'est en cela que vous écrivez, Grégoire eut le génie de marquer la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge.
En tout cas, il a eu le courage de tourner le dos au passé, de rester fidèle à sa tradition, mais d'être capable d'assumer la réalité nouvelle.
Alors, vous présentez évidemment les querelles, avec les querelles religieuses, la querelle aussi du pallium avec Constantinople. Quels sont ces rapports? Parce que finalement, il doit, si vous me permettez l'expression, un peu ménager la chèvre et le chou. D'un côté, être en phase avec les réalités romaines, et puis de l'autre côté, il reste malgré tout citoyen romain. Il n'a pas un devoir d'obéissance à l'égard de Constantinople.
Vis-à-vis de l'empereur, mais lui-même le dit, il le dira plusieurs fois. Moi, j'ai fait mon devoir en obéissant aux ordres de l'empereur. Jusqu'au moment où ma conscience me le permet. Ce qui est terriblement énervant, évidemment, c'est de de la, pour Grégoire, c'est de voir l'arrogance qui se développe de plus en plus chez le patriarche de Constantinople, qui veut ainsi non seulement prendre le titre de patriarche écuménique, c'est-à-dire universel, mais aussi qu'il commence à vouloir s'élever au-dessus de ses collègues évêques et au-dessus même du pape à Rome. Et c'est là qu'on voit très terriblement les deux raisonnements qui sont différents. Si le pape est important, ce n'est pas parce qu'il est à Rome, parce que c'est la capitale de l'Empire. Si le pape est important, c'est parce que l'Église de Rome a reçu l'enseignement de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et que c'est nourri par cet enseignement que la tradition peut s'établir. Et voilà que, comme l'empereur, le nouvel empereur s'est installé à Constantinople, il a créé, l'empereur a créé et a développé le patriarcat de Constantinople en lui donnant de plus en plus de pouvoir. C'était une collusion entre l'Église et l'État. Et ce sera toujours le conflit qui existera entre Grégoire et le patriarche de Constantinople en disant non, tu es évêque, oui, mais moi je suis le successeur de Pierre.
Donc il apparaît prince des apôtres. C'est le titre de prince des apôtres, c'est un titre malgré tout assez récent pour l'époque, non ?
Oui, tout à fait. Mais celui dont c'est Grégoire le Grand qui l'a utilisé de manière aussi abondante et importante. Mais ce qui est très important, c'est encore une fois de se rappeler ceci, c'est que si Grégoire veut imposer son autorité, ce n'est pas sur sa propre personne, mais c'est en fidélité ou en tradition par rapport à Saint-Pierre. C'est par lui que Pierre parle, c'est par lui que Pierre dirige. Et donc, d'une certaine manière, il y a cette espèce de conscience de dépassement. Il est dépassé par sa propre fonction. Ce n'est pas lui qui est le plus important, mais c'est ce qu'il y a derrière lui.
Ce qui montre au fond tout le sens du devoir qu'il avait.
Absolument. Et le sens du bien commun, le sens du don de soi pour quelque chose qui dépasse.
Je reçois Philippe Haine, auteur du livre Grégoire le Grand aux éditions du CERF. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. À tout de suite. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Grégoire le Grand. Je reçois Philippe Haine, professeur à l'Université catholique de Lille et auteur du livre Grégoire le Grand, paru aux éditions du CERF. Alors, nous avons évoqué ensemble les rapports de Grégoire avec Constantinople, la question des rapports avec les invasions lombardes, en tous les cas les chefs lombards, mais le pape est aussi a un rôle évangélisateur et c'est pour cette raison que son autorité doit s'étendre bien au-delà en Méditerranée et dans les autres pays, la Gaule, la Bretagne, etc. Est-ce que le pape a au fond une politique définie ? Est-ce qu'il, quand il est élu, il a un programme bien défini vis-à-vis de ces pays qui sont loin au fond ? Nous sommes à une époque où les moyens de communication sont moins importants qu'aujourd'hui. Donc, non seulement ils sont loin, et puis deuxièmement, au fond, la crise, elle est d'abord à Rome. Elle est d'abord à Rome. Alors, est-ce que le pape a le temps de s'occuper de cette question ?
Ça, c'est un point intéressant. Est-ce qu'il y a une conception universelle d'une politique religieuse universelle chez Grégoire le Grand ? Encore une fois, je crois qu'il y a... Il faut voir la situation telle qu'elle est. C'est l'effondrement, la dislocation complète de tous les cadres politiques qu'il a pu connaître, dans lesquels il a pu être éduqué. C'est l'installation définitive de peuplades germaniques ainsi en Europe occidentale. Et c'est au cas par cas. Je crois que s'il n'y a pas de véritable politique d'expansion religieuse, pourrait-on dire, mais s'il a davantage une volonté de rétablir l'ordre, de rétablir le bon fonctionnement des institutions ecclésiales. Il est certain que s'il a envoyé donc Augustin de Canterbury, s'il l'a envoyé en Angleterre, c'est un peu en réponse à une demande, à un appel qui a été fait de la part de ces régions-là, et moins par une volonté délibérée d'expansion personnelle.
Alors, par exemple, prenons la question de la Gaule. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes en Gaule. Que se passe-t-il en Gaule ?
Eh bien, on se trouve après la dislocation de l'empire de Clovis, on se trouve avec Bruno et Frédégonde, c'est-à-dire des êtres d'une brutalité, d'une trahison, d'une cruauté invraisemblable. Et lorsque Grégoire de Tours décrit un peu la situation à ce moment-là, il n'a que des scènes horribles de massacres, de pillages et de meurtres à raconter. Et c'est à l'intérieur de cette Gaule-là que Grégoire va commencer à négocier. Et c'est lui le premier qui va établir une relation diplomatique régulière avec ces barbares. Et je crois que c'est fait par...
C'est la réelle politique dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas au niveau donc, des bonnes mœurs qu'il fait cela, mais c'est simplement parce qu'ils sont là et c'est avec eux qu'il faut vivre. Et il ne faut pas imaginer qu'ils partiront, qu'ils seront remplacés par un nouvel empire romain.
Oui, donc une politique très réaliste. Est-ce que les mots de l'Église en Gaule sont les mêmes mots de l'Église en Italie, à Rome ? La simonie, etc.
Oui, non, c'est pire encore en Gaule, parce que donc là, les nominations se font directement par les souverains francs de l'époque. Ce sera toujours donc la grande plaie de l'Église gauloise et de l'Église française. Et certainement, c'est une nomination directe par les souverains.
Oui, ouais. Nous préfigurons en quelque sorte le conflit du spirituel et du temporel qui va se développer dans les rapports de la monarchie et de l'Église.
C'est ça, durant tout l'Ancien Régime.
Oui. Alors, il y a la question de la Gaule, mais il y a aussi bien d'autres pays que vous abordez, ou en tous les cas continents. Vous abordez l'Afrique, vous abordez l'Espagne. Je voudrais m'arrêter un peu sur l'Angleterre, parce que c'est un cas particulier. Qu'est-ce qui distingue l'Angleterre ? Est-ce que c'est une île à évangéliser ?
Oui, non. Et non, parce qu'en fait, elle était déjà évangélisée avec les peuplades celtiques qui étaient déjà chrétiennes. Et voilà que les populations angles et saxonnes viennent donc du nord de l'Allemagne et ont envahi ce territoire. Mais seulement les Celtes n'en voulaient pas que les Angles et les Saxons se convertissent au christianisme, parce qu'ils subissaient leur autorité et leur brutalité sur terre et ne souhaitaient pas les retrouver au ciel. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient absolument pas faire de prosélytisme religieux. Par contre, ça, c'est un peu le courage et l'audace de Grégoire le Grand, c'est d'avoir voulu essayer de le faire.
Et il y arrive ?
Alors, il y arrive...
Parce que encore une fois, il ne règne que 14 ans, et 14 ans, c'est peu.
C'est peu. Mais ce qu'il fait, donc, il envoie donc en Saint-Augustin de Canterbury, et avec quelques moines. Ben avec quelques consignes très précises et qui sont très utiles pour l'histoire des missions, en disant qu'il ne s'agit pas de détruire le culte qui existait précédemment, mais de le transformer. En d'autres termes, dans les temples anciens, il fallait enlever les statues des anciennes divinités pour y mettre des représentations de la vraie divinité, pourrait-on dire. Et les fêtes religieuses qui étaient célébrées précédemment par ces Celtes païens devaient être conservées, mais transformées, pour honorer davantage Dieu ou ses saints. Et ce qui est très intéressant, cette espèce, encore une fois, de réalisme, en se disant qu'il ne s'agit pas de casser ce qui existe déjà, mais de le transformer.
Alors, vous écrivez que l'évangélisation, c'est une évangélisation rapide, mais en revanche, elle est peu profonde.
Oui, de toute façon, comme le plus souvent dans ce cas-là, le roi se convertit et la population suit. Et lorsque le roi disparaît, son successeur peut reprendre les anciens cultes païens. C'est vrai que ça s'est fait de manière très superficielle. Et on peut regretter que Saint-Augustin de Canterbury a fait preuve de quelques maladresses à l'égard du clergé local et à l'égard des personnages importants. Il est un peu arrivé un peu brutalement ainsi, sans vouloir respecter une certaine délicatesse ou un certain respect de la part vis-à-vis des personnes déjà en place. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un changement brutal qui s'est fait, un retour brutal au paganisme, c'est certain.
Alors nous arrivons, Philippe Haine, au terme de cette émission, et le terme d'une biographie, bien évidemment, c'est la mort. Est-ce que le règne de 14 ans, la petitesse, permet malgré tout d'insuffler un nouveau, de nouveaux horizons à l'Église à cette époque ? Est-ce que l'œuvre, au fond, de Grégoire le Grand continue ?
Dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, donc, ce sera un nouveau diacre qui sera élu pape et qui connaîtra exactement les mêmes pratiques simoniaques, les mêmes pratiques de détournement d'argent, à un point tel que la population romaine fera une émeute de la faim, parce que les greniers à blé qui avaient été remplis par Grégoire le Grand, qui devaient être distribués pour lors des périodes de famine, ont été transformés en véritable lieu de commerce. Et donc, c'est à prix d'or que ce nouveau pape vendait le blé qui était ainsi engrangé. Donc, on peut dire d'une certaine manière que certaines personnes ont repris leur vieille et mauvaise habitude, pourrait-on dire. À l'inverse, au long terme, on peut dire que c'est véritablement un phare qui luit à l'intérieur de l'histoire de l'Église. Et c'est un phare qui luit pour deux raisons, parce que de fait, à cette période-là, comme on l'a signalé au niveau culturel, il y avait un très grand effondrement, mais aussi, deuxièmement, parce que c'est une belle personnalité qui, tout entière, encore une fois, rayonne par son don de sa personne pour sa mission.
C'est un phare également pour aujourd'hui, d'après vous ?
Moi, je le crois sincèrement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il était fidèle à la tradition, à sa culture, mais il était aussi réaliste vis-à-vis des situations politiques. Et devant la transformation, le bouleversement que nous connaissons actuellement à l'intérieur de l'Europe, on peut s'imaginer qu'il serait utile aussi d'avoir des gens qui soient riches de leur culture, de leur tradition, mais pas prisonniers. Non pas voulant rétablir une histoire du passé, mais être capable, grâce à cette richesse de notre culture, de pouvoir faire face aux situations nouvelles.
Il sera canonisé rapidement ?
Il sera entouré très rapidement d'un véritable culte, très rapidement.
Et donc, vous citez Boniface VIII, qui, pour boucler la boucle avec ce que je disais en début d'émission, qui proclame Ambroise, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme comme principaux pères de l'Église. Voilà. Merci beaucoup, Philippe N., d'être venu au micro de Canal Académie pour nous présenter ce personnage passionnant et fascinant, Grégoire le Grand. C'est le titre de votre biographie parue aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.